Au Capi Service, du lundi au vendredi, de 9h à 11h, heure de Kinshasa, avec Jody Daniel Kachamou.
Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce magazine de la vie au quotidien, au Capi Service. C'est un plaisir de vous retrouver pour vous servir dans ce magazine de la vie au quotidien, au Capi Service. Eh bien, nous allons parler aujourd'hui de la biodiversité, comment assurer une bonne gestion de la biodiversité en République démocratique du Congo. Eh bien, pour en parler, nous recevons Monsieur Alain Ngunda. Il est spécialiste chargé des institutions et gouvernance à l'organisation appelée FABS, qui veut dire activité de soutien des forêts et biodiversité. Monsieur Alain Ngunda, bonjour.
Bonjour.
Et bienvenue dans cette émission de la vie au quotidien, au Capi Service. On vous retrouve tout à l'heure. Et dans la deuxième partie de ce programme, nous allons parler des affaires foncières. Voilà. Quelle est l'importance de la digitalisation des titres fonciers en République démocratique du Congo? Nous allons recevoir le ministre des Affaires foncières, Molendo Sakombi, à partir de 11h05, heure de Kinshasa. Vos questions et préoccupations, vous avez des questions et préoccupations, eh bien, appelez au 081 890 63 94. Écrivez-nous également à service@radiookapi.net. Tati Mapoukou assure la coordination et la réalisation de cette émission. Willem Lungamba à la mise en onde au micro. Jody Daniel Keshama, bienvenue à tous et excellentes conditions d'écoute du magazine de la vie au quotidien.
Parce que les problèmes font partie de notre vie au quotidien et que les solutions, ce n'est pas ce qui manque, au Capi Service vous met au centre de vos préoccupations et fait le relais avec les autorités compétentes pour trouver une solution. Au Capi Service, nous sommes à votre service. De lundi à vendredi, dès 9h, heure de Kinshasa.
Encore une fois, bienvenue dans Okapi Service, le magazine de la vie au quotidien. La RDC est un pays riche en biodiversité et qui joue un rôle important pour l'équilibre écologique. On y trouve notamment un grand massif forestier avec diverses espèces de plantes, d'animaux, des cours d'eau et des espèces aquatiques, ainsi qu'un sol avec un sol très riche pour l'agriculture. Cependant, cette biodiversité est menacée par la pression démographique et la pollution. Alors, quelles sont les stratégies et les actions à mettre en œuvre pour faire face aux menaces qui pèsent sur la conservation de la biodiversité et la gestion des forêts? Eh bien, c'est cela que nous allons échanger avec notre invité aujourd'hui, Monsieur Alain Ngunda. Encore une fois, bonjour.
Bonjour, Monsieur le journaliste.
Voilà, j'ai dit tout à l'heure que vous êtes spécialiste chargé des institutions et gouvernance à la structure dénommée FABS. Je crois que c'est bien, j'ai bien prononcé. Hein.
Oui.
Voilà, qui est activité de soutien des forêts et biodiversité. Parlez-nous d'abord de votre organisation, de ce que vous faites.
En fait, l'activité au soutien aux forêts, à la biodiversité, est un projet de l'USAID qui consiste en fait à faire face aux menaces qui pèsent sur les forêts et la biodiversité, et on le fait en deux phases. Donc, il y a le soutien institutionnel qu'on fait pour notamment améliorer la gouvernance au niveau institutionnel, et aussi des appuis que nous faisons au secteur privé, notamment, et à la société civile, qui font en fait, qui permettent permet de soutenir des activités qui permettent de lutter efficacement contre les menaces qui pèsent sur les forêts et la biodiversité. En gros, c'est ça que nous faisons.
Mmh. Et quelles sont ces menaces qui pèsent sur la forêt et la biodiversité?
Les menaces aujourd'hui qui pèsent sur les forêts et la biodiversité en RDC, ce qu'on a d'abord, c'est la déforestation. Juste à rappeler qu'en RDC, on perd environ 500 000 hectares de forêt chaque année. Donc, c'est l'une des menaces qui pèsent. Et il y a aussi le braconnage, bien entendu, qui pèse sur la biodiversité. Et bien sûr, la pollution, notamment la pollution des eaux.
Voilà, il y a le braconnage, la pollution des... On a appris que surtout les populations riveraines qui sont autour des forêts exercent une forte pression parce que leur survie, la vie dépend de la forêt, des éléments de la forêt.
Oui, effectivement, donc les populations qui sont sur place pour manger, ils utilisent donc ils font la chasse, et pour l'agriculture, ils font l'agriculture itinérante sur brûlis. Mais cette culture itinérante sur brûlis aujourd'hui est la première cause de déforestation. Alors ce que notre organisation, cette activité de l'USAID essaye de faire, c'est de soutenir en fait les projets qui permettent justement de faire face aux menaces. Est-ce qu'il existe par exemple des nouvelles modes de production que l'agriculture itinérante sur brûlis? Et aussi il y a le charbon de bois, parce qu'on n'a pas accès à l'énergie, donc on utilise le charbon de bois. Donc ça signifie qu'on coupe des arbres et que ça, c'est l'une des causes principales de la déforestation. Et le projet, ce projet de l'USAID permet en fait de soutenir justement les initiatives à la fois privées et institutionnelles qui permettent de lutter face à ces menaces.
Voilà, on retient qu'il y a beaucoup de menaces par rapport à la forêt. Alors quand on parle de la biodiversité, qu'est-ce que cela veut dire? Ça aide, on peut toujours aider les gens à bien comprendre ce que cela veut dire exactement.
En fait, la biodiversité, c'est assez simple. C'est simplement tous les êtres vivants existants sur Terre. C'est ça, en fait, la définition de la biodiversité. Et je pense que nous allons en parler. Pourquoi il faut protéger tous les êtres vivants sur Terre? Parce que nous sommes interdépendants.
Bien, vous avez des questions et préoccupations par rapport à cette thématique? Eh bien, le standard est déjà ouvert. Il suffit de composer les 081-890-63-94 et qui viennent également à service@radiocapi.net. Alors, parlez-nous des activités que vous avez déjà eu à soutenir dans le cadre de la protection de la biodiversité.
Oui, en fait, l'approche aujourd'hui, c'est que si on veut faire face aux menaces qui pèsent sur les forêts et la biodiversité, il faut faire confiance aux populations, au peuple congolais elle-même, qui connaît les techniques, les préoccupations et comment faire face aux menaces. C'est pour ça que depuis que le projet a débuté, depuis 2 ans, ce que nous faisons sont des appels à propositions. Donc là, nous avons fait une appel à proposition sur la lutte contre la criminalité faunique qui a déjà pris fin. Nous avons fait aussi une appel à proposition sur les alternatives au charbon de bois et nous avons eu des centaines et des centaines de propositions d'ONG, du secteur privé des activités qui permettent de lutter contre ces menaces-là, donc la carbonisation et la criminalité faunique. Donc c'est l'une des grandes activités que nous sommes en train de faire. À part ça, le fait de soutenir les ONG, les secteurs privés, nous faisons aussi de l'appui institutionnel pour essayer d'aider l'administration, notamment l'Institut congolais de conservation de la nature. Aujourd'hui, nous sommes en phase avec eux pour essayer de mettre en place justement une stratégie nationale sur la criminalité faunique et aussi des mesures incitatives aux investissements écotouristiques dans les aires protégées, parce que vous savez, nous avons beaucoup d'aires protégées en RDC, mais ces aires protégées n'ont pas nécessairement les moyens financiers qui permettent à l'ICCN de bien protéger la faune et la flore qui s'y trouve. Alors nous essayons avec l'ICCN de mettre en place des mesures incitatives aux investissements écotouristiques afin qu'il y ait beaucoup plus de touristes dans nos aires protégées et que l'ICCN puisse avoir les moyens financiers de mieux protéger ces espaces-là. Voilà un peu les activités. Nous faisons beaucoup d'activités, mais voilà en gros les principales que nous faisons actuellement.
Bien, des questions et préoccupations, le standard est déjà ouvert. Composez les 081-890-63-94.
Okapi Service,
le magazine de la vie quotidienne. Okapi Service reçoit ce lundi 23 mai le ministre des Affaires Foncières, Aimé Molendo Sakumbi. Au menu de cet échange, le projet de numérisation et de sécurisation des titres fonciers et immobiliers en République démocratique du Congo. Quelle est l'importance de ce projet de digitalisation des titres fonciers et comment se fera la mise en œuvre? Rendez-vous ce lundi 23 mai dans Okapi Service, dès 11h à 12h, heure de Kinshasa. Pour participer à cette émission, appelez au 081 890 63 94. Écrivez-nous à service@radiookapi.net. Postez vos questions et préoccupations sur la page Facebook d'Okapi Service.
Okapi Service avec Judy Daniel Kachama.
Bien, nous parlons aujourd'hui de la gestion de la biodiversité en République démocratique du Congo. La bonne gestion, n'est-ce pas, de la biodiversité avec Monsieur Alain Ngunda, spécialiste chargé des institutions et gouvernance à FABS, activité de soutien des forêts et biodiversité. Alors, une autre question est de savoir, pendant que les auditeurs, je sais qu'ils vont déjà commencer à appeler pour participer à cette émission. Alors, une autre question est de savoir, quelle est l'importance de la biodiversité?
En fait, l'importance de la biodiversité, j'aime toujours prendre prendre quelque chose de très simple. Oui. En fait, aujourd'hui, il faut comprendre que 60% de nos médicaments, les médicaments qu'on utilise, proviennent des composés chimiques qu'on a retrouvés dans les forêts, dans la faune et dans la flore. Mmh. Donc, quand vous voyez cette forêt, c'est en fait la pharmacie en fait de l'humanité. Et d'ailleurs, dans le secteur du cancer, par exemple, 80% des médicaments qui aujourd'hui permettent de soigner le cancer proviennent des plantes ou de la faune. Donc, vous comprenez que pour l'humanité, la protection de la biodiversité est une question de survie, en fait. C'est comme notre pharmacie. Et la question que vous me poserez, c'est pourquoi protéger notre pharmacie? Mais si vous voulez protéger,
c'est une question de survie.
C'est une question de votre propre survie. Mmh. Donc voilà pourquoi on doit notamment protéger la biodiversité, parce que il s'agit de notre survie.
Et il semble que la RDC regorge en son sein une bonne partie des richesses.
Oui, effectivement, la RDC,
la biodiversité.
En fait, dans le monde, il y a 17 pays dans lesquels on retrouve plus de 50% des espèces existant sur Terre. Et dans ces 17 pays, devinez quoi, la RDC fait partie de ces 17 pays. Donc, et c'est là pourquoi on doit mettre l'accent sur le fait que la RDC doit protéger justement sa méga biodiversité, parce que il s'agit en fait de survie même de l'humanité.
Mmh. Et comme on l'a dit tout à l'heure, quand on parle de la biodiversité, on voit les arbres, les forêts, les êtres humains, c'est ça, les poissons, etc.
C'est tous les êtres vivants. Tous les êtres vivants.
Bien, nous parlons de la protection de la biodiversité, comment assurer une bonne gestion. Alors aujourd'hui à RDC, quels sont les défis auxquels on est confronté par rapport à la protection de la biodiversité?
En fait, la protection aujourd'hui, les défis que nous sommes en train d'être confrontés, c'est notamment la déforestation, parce que quand on parle de déforestation en RDC, c'est environ 500 000 hectares que l'on perd chaque année de forêt. Mmh. C'est 500 000 hectares que l'on perd chaque année de forêt, ce sont des habitats. Les habitats de la faune et de cette flore que nous perdons. Et si aujourd'hui 60% des médicaments utilisés sur la planète proviennent des plantes, alors imaginez pour nos enfants, nos petits-enfants, nos arrière-petits-enfants, il existe sûrement des composés chimiques qu'on n'a pas encore découverts, et voilà pourquoi il faut lutter contre cette déforestation, parce que c'est une perte à la fois sur la faune et aussi sur la forêt et aussi sur l'habitat.
Est-ce qu'on peut dire que l'agriculture surbrûlée contribue à la déforestation?
Oui, c'est la première cause de déforestation en RDC, c'est la cause principale. Voilà pourquoi des projets comme le nôtre essayent justement d'appuyer les nouveaux modèles de production pour nos populations, afin qu'ils adoptent d'autres modes de production que l'agriculture sous brûlis, qui détruit la forêt et qui détruit en réalité leur avenir, parce qu'ils sont en train de détruire leurs plus grandes ressources en termes de médicaments notamment.
Mais ça, c'est lié à la culture. Il semble que c'est dépouillé des traditions. Les arrières parents ont pratiqué l'agriculture sur brûlis, parce que s'il faut préparer la terre, on coupe les arbres et puis on met le feu et puis on fait reposer la terre pendant un moment et ensuite on peut cultiver de nouveau. Oui. Est-ce que comment les gens arriveront à se détacher de ces habitudes qui datent de très longtemps?
Oui, se détacher des habitudes qui durent très longtemps, oui, ça pose problème. Ça prend du temps aussi pour changer. Mmh. Mais aujourd'hui, il existe des techniques autres que l'agriculture, comment dire, l'agriculture itinérante sur brûlis. Il existe d'autres techniques, par exemple l'agroforesterie. Mais la question qu'il faut se poser aujourd'hui, c'est combien aujourd'hui de paysans congolais savent comment faire l'agroforesterie. Il faut une grosse sensibilisation et il faut justement des projets comme le nôtre qui permettent de soutenir justement ces nouveaux modes de production agricole. Donc il faut à la fois de la sensibilisation, de la formation, et c'est un peu dans ce cadre-là que nous travaillons dans l'activité au soutien aux forêts à la biodiversité de l'USAID.
Bien, on va accueillir les auditeurs. Nous avons en ligne Bienvenue depuis Kinshasa. Bonjour.
Bonjour, je dis bonjour Radio Capi.
Quelle est votre préoccupation?
Oui, j'ai quelques préoccupations par rapport à ce que notre invité venait de dire tout à l'heure. Nous sentons bien ces ONG, ces projets qui luttent contre la déforestation ou qui luttent pour la biodiversité. Mais en soi, sur le terrain, on voit pas ce que réalisent ces ONG-là. Quand vous avez posé la question à notre invité, il dit très peu de Congolais savent comment appliquer l'agriculture durable, donc l'agriculture. Mais ces ONG, on les voit ici à Kinshasa. Je peux vous dire, moi je les ai, ça fait pas longtemps, de la province du Bandundu. Je vois où les populations rurales sont en train de détruire les forêts primaires. Ils sont en train de détruire les forêts primaires pour faire ce qu'on appelle là-bas en termes vulgaires les mafinga. Donc, un espace qui peuvent les faciliter pour cultiver parce que les anciennes terres sont devenues aujourd'hui improductives. Ces ONGD là, on les trouve seulement sur papier et dans les médias, mais en réalité, quand vous allez dans les fins fonds de notre pays, ce qui se passe là-bas, c'est pire, je vous dis. Si ces ONGD restent ici à Kinshasa, restent dans les médias, restent dans les bureaux climatisés, je vous jure, dans 50, 60 ans, nos enfants auront des difficultés, ils auront même pas de terre pour cultiver.
Et comment ces gens détruisent les forêts primaires? Les terres qu'ils utilisaient avant ne produisent plus assez, alors maintenant ils vont à l'intérieur de la forêt.
La forêt, on coupe les gros arbres, on met le feu, après quoi ça va détruire tous ces feux-là, ils vont dessoucher, après quelques années ils commencent à cultiver. C'est déplorable. Les forêts primaires, je vous jure. Je suis ingénieur agronome, je sais de quoi je parle. Nous sommes ici à Kinshasa parce que la biodiversité part de la forêt, des animaux, des eaux. Mais nous voyons comment est-ce que les eaux de la ville de Kinshasa, les cours d'eau qui traversent la ville de Kinshasa sont pollués. Bon, à quel niveau ces zones GDA interviennent? Parce que même ici à Kinshasa, on devrait quand même faciliter. Mais pourquoi est-ce que rien? Est-ce que ces zones GDA sont vraiment impliquées? Ou l'argent de financement, elle est utilisée seulement pour les fonctions. En soi, c'est il n'y a rien, j'ai dit.
Bien, merci, monsieur Bienvenu. Alain Gounda, qu'est-ce que vous pouvez dire à Bienvenu de Kinshasa?
Oui, dans le cadre de l'activité au soutien en forêt à la biodiversité, justement, nous essayons à la fois de soutenir non seulement les ONG, le secteur privé, mais aussi les coopératives communautaires. Donc, eux aussi, dans les projets que nous lançons, ils peuvent aussi soumissionner parce qu'il s'agit de leurs propres problèmes. Et ce sont les meilleures personnes qui peuvent résoudre les problèmes sur terrain. Donc,
Il déplore surtout le fait qu'il y a beaucoup des ONG qui travaillent dans les secteurs de l'environnement, mais là où il était dans le Bandundu, il n'a pas vu l'impact de leurs activités.
Oui, c'est pour ça que dans cette activité, on essaye vraiment de ne pas rester à Kinshasa. Quand je vous dis que ce sont les populations qui doivent nous proposer qu'est-ce qu'il faut faire, ça signifie que ce sont les populations locales elles-mêmes. Ça signifie qu'aujourd'hui, si quand nous lançons un appel à proposition pour lutter, par exemple, contre l'agriculture sur brûlis, les coopératives communautaires peuvent déposer s'ils ont des solutions. Les solutions ne proviendront pas de l'USAID ou de quelque part d'un bureau à Washington. Ça proviendra des populations et même. Et l'USAID, via ce projet, ne fera qu'en soutien. Et je voudrais quand même mettre l'accent sur quelque chose d'important qui a été dit par l'interlocuteur. Il s'agit même de la ville de Kinshasa. Mmh. On parle aujourd'hui des ressources halieutiques. Nous avons aujourd'hui beaucoup de plastiques qui sont déversés dans le fleuve. Et ça menace justement l'activité, les ressources halieutiques qui existent dans le fleuve à Kinshasa. Alors comment faire face à ça? Aujourd'hui, nous sommes en train de discuter notamment avec le ministère de l'Environnement parce que le recyclage aujourd'hui du plastique est quelque chose de fondamental si on veut protéger les ressources halieutiques qu'il y a sur le fleuve Congo ici à partir de Kinshasa. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut essayer d'aider le secteur privé qui est dans ce recyclage à avoir plus de moyens et augmenter sa production de recyclage, notamment par des mesures incitatives et fiscales pour aider ces sociétés-là. Aujourd'hui, la vice-première ministre, elle est engagée sur ce point et l'USAID aussi essaie de soutenir justement pour que les mesures incitatives via ces sociétés qui font déjà du recyclage, on puisse les aider et les soutenir pour qu'ils puissent faire un meilleur recyclage et surtout augmenter leur production afin de préserver notamment les ressources halieutiques qu'il y a à Kinshasa.
Mmh. Et quand vous parlez des ressources halieutiques, ça veut dire quoi? On voit qu'est-ce qu'on,
le poisson
et quoi d'autre?
En fait, c'est toutes les ressources halieutiques, donc tout ce qui existe, comment dire, sur le fleuve, quoi. Mmh. Donc, on parle du poisson, on parle du crocodile, tout ce qui existe sur toute la faune, en fait, qui existe sur le fleuve. Et vous voyez, tout ce plastique qui est déversé menace cette faune. Et directement aussi, nous-mêmes, les Congolais, parce que nous mangeons justement ce poisson qui est menacé via le plastique.
Et quand on parle de la criminalité faunique, qu'est-ce que cela veut dire exactement?
En fait, la criminalité faunique, c'est quand vous chassez sans respecter simplement les règles. Parce que aujourd'hui, par exemple, pour chasser, il y a des règles. Il faut avoir un permis. Et il y a aussi des espèces que l'on ne peut pas chasser, qui sont intégralement protégées. Mmh. Par exemple, vous ne pouvez pas tuer un okapi, une girafe, un hippopotame. Ce sont des espèces intégralement protégées. Et il y a aussi des espèces qui sont partiellement protégées. Il faut les connaître. Aujourd'hui, par exemple, beaucoup de gens ne le savent pas, mais le perroquet gris, qu'on appelle communément tchaku, c'est une espèce aujourd'hui qui est intégralement protégée. Si aujourd'hui, des agents du ministère de l'Environnement vous attrapent avec un perroquet gris, ben vous risquez de faire de la prison et récolter une amende. Et c'est là qu'on parle de criminalité faunique.
Bien, on va accueillir deux autres auditeurs, Glody de Kinshasa et Malonga de Banondeville. Glody, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour à tous les auditeurs.
On vous écoute, Glody.
Oui, merci. Moi, je pense que la biodiversité est en danger partout dans la République démocratique du Congo. Si vous prenez le temps de cartographier des zones, des villes, des villages, vous allez vous rendre compte que la biodiversité est en danger. Si nous ne trouvons pas la solution, d'ici 2030, on va avoir des scandales biologiques, des scandales de différents domaines. Alors, je devais nécessairement beaucoup parler, mais l'État ne le permet pas. Je vais juste passer aux questions. Monsieur l'invité, vous avez bien expliqué qu'il y a des projets qu'on peut vous proposer. Mais vous savez, comment est-ce qu'on peut vous atteindre et quelle est votre adresse, peut-être l'adresse de la société, peut-être qu'on peut... On peut vous proposer des solutions parce que il y a des solutions, mais manque toujours pas. Il y a beaucoup d'ingénieurs agronomes qui ont pris le temps de travailler sur ça. Et si aujourd'hui, il y a des projets comme ça, comment est-ce qu'on peut vous contacter pour vous proposer des projets? De pareils projets, ça c'est l'ordre 1. Deuxième, pour chuter, qu'est-ce que vous pouvez faire dans votre niveau actuellement? Parce que vous allez se rendre compte que, prenons pas l'exemple d'un plus démocratique pour Congo parce qu'il est très vaste. Aujourd'hui, la ville de Kinshasa, il est pollué. Il y a la pollution de l'eau, pollution du sol, pollution de l'air. Tout est pollué. Alors, qu'est-ce que vous proposez d'ici 2023? Parce que ça ne va pas. Si nous continuons comme ça, il y a des gens vraiment des dangers, des générations qui sont en train de venir.
Merci Glody de Kinshasa. Merci Glody. On va donner la parole à Malonga des Bandes de Nouville. Bonjour.
Oui, bonjour. Je suis toujours ici à Kinshasa.
Vous êtes toujours à Kinshasa. On vous écoute.
Ok, merci beaucoup. Vous voyez à la thématique d'aujourd'hui. Moi, je suis du secteur environnement. Chaque fois, je dénonce ce que l'invité vient de dire là-bas. Pour encadrer la population, il faut répondre à leurs exigences. Mais si vous êtes incapable de satisfaire la population va faire ce qu'elle veut dans l'environnement. Ces ONG-là s'attribuent des attributions de notre ministère. Nous qui travaillons là à l'intérieur, dans des provinces, à Banondeville, je suis au Kwilu là-bas, vous voyez que chaque bureau a ses attributions pour assainir l'environnement, pour bien travailler et pour bien encadrer ce secteur-là. Mais vous verrez, ces attributions sont déjà transférées par ces ONG. Vous croyez que vous allez travailler, puisque avant de travailler, il faut être financé et être bien encadré en tant qu'un agent de l'État. Mais vous verrez que ce sont les agents de ces ONG, les membres de ces ONG, qui sont bien encadrés, mais ils ne répondent pas. Ils s'enrôlent seulement là pour bénéficier ces gains qu'ils trouvent là-bas. S'ils gagnent ce qu'ils cherchaient, c'est fini, l'environnement reste comme ça. Alors, moi, je propose ceci. L'invité va beaucoup dire, va beaucoup expliquer, mais il faut vivre la réalité du terrain. Il y a le système photovoltaïque qu'on prépare pour répondre à cette culture de circuiterie. Mais, en tout cas, ça reste un chantage. On chante seulement ça. Mais jusqu'à présent, il n'y a aucun village, aucune agglomération qui est encadrée à ce système-là. Bon, pourquoi on va seulement...
Malonga, vous parlez de quel système? Le système voltaïque, c'est cela?
Oui, oui, d'encadrer pour empêcher ce qu'il tire là et pour garder la biodiversité.
Et ce système-là, hein? Comment ça fonctionne, ce système voltaïque dont vous faites allusion?
Non, ça fonctionne avec les aides des panneaux solaires. Vous voyez que si la population est bien encadrée dans ce sens-là, vous voyez, la forêt sera vraiment en jachère et la population va oublier certaines cultures-là.
Hein? Donc, au lieu de brûler le sol, la forêt, on utilise les panneaux.
Oui, moi...
Comment ça va se passer?
Oui, j'ai dit ceci. Si ce système a été proposé par le secteur, puisque la population sera bien encadrée, du point de vue que lorsque la population aura besoin de braises ou bien de quelque chose, mais avec ce système-là, elle va s'encadrer. Et puis la forêt, ce mouvement-là que la population menace la forêt, va aussi s'éternir là-bas. Avec beaucoup d'autres manipulations qu'on va poursuivre. C'est dans ce sens-là.
D'accord, mais merci.
Aujourd'hui, il n'y a aucune chose ou bien aucun démarche qui se fait là-bas. Raison pour laquelle ces ONG-là, au lieu d'aller s'associer au ministère, mais si ça arrive sur le terrain, c'est comme si ça travaille en parallèle avec l'environnement. Or, si quelques ONG arrivent sur le terrain, ça doit s'attacher au secteur qui fait allusion de ces travaux.
Merci, Monsieur Malonga. Merci beaucoup d'avoir appelé. D'accord, merci beaucoup, Monsieur Alain Ngunda. À vous la parole.
Oui, concernant le premier interlocuteur, comment proposer, comment nous atteindre? Ben en fait, nous fonctionnons nous lançons des appels à propositions. Comme je l'avais dit au début de l'émission, nous avons déjà lancé deux propositions qui ont malheureusement déjà pris fin. C'était on proposait en fait au secteur privé, aux ONG locales et aux coopératives de nous proposer des moyens pour lutter contre la criminalité phonique. Nous avons reçu environ 150 propositions et nous venons juste de terminer la proposition sur les alternatives à l'utilisation du charbon de bois. Nous avons reçu 245 propositions. Donc et nous prévoyons aussi proposer des appels à propositions, notamment éventuellement.
Et vous le publiez où généralement ces appels?
On le publie on va pas faire la publicité
sur certains sites internet
oui. Et je pense d'ailleurs que prochainement nous allons le faire pour d'ailleurs à Radio Okapi pour que on soit sûr que ces appels à propositions soient vraiment encore plus couverts et que les gens puissent nous proposer encore beaucoup de solutions. Alors que comptons-nous faire par rapport à la pollution, parce qu'on a mis l'accent sur Kinshasa, nous faire par rapport à la pollution sur Kinshasa? La pollution sur Kinshasa, à ce que je vois, c'est surtout la pollution concernant le plastique, justement, qui menace le fleuve qu'il y a en face. Ce que nous sommes en train de discuter ces temps-ci avec le ministère de l'Environnement, c'est vraiment mettre en place les mesures incitatives, donc fiscales, économiques et sociales, pour les sociétés dont les activités contribuent à améliorer l'environnement. Donc, toutes ces sociétés qui permettent, par exemple, de mieux recycler le plastique peuvent bénéficier des mesures fiscales et économiques. C'est prévu dans la loi sur l'environnement. Nous sommes maintenant en discussion avec le ministère de l'Environnement pour essayer de mettre ces mesures en place pour aider ces sociétés-là. Parce que le plastique, on va toujours l'utiliser, mais il faut que ça soit recyclé. Donc c'est vraiment l'une des activités majeures que nous voulons faire avec le ministère. Nous sommes présentement en discussion. Concernant le deuxième interlocuteur, en fait, je pense qu'il faut faire un équilibre entre les ONG et les institutions et trouver l'équilibre nécessaire. Il y a des ONG qui travaillent sur terrain, c'est pas tous les ONG qui travaillent mal, mais aujourd'hui nous allons même plus loin parce que nous voulons même atteindre les coopératives locales, donc les populations eux-mêmes. Et juste pour aller rapidement, l'interlocuteur a parlé des alternatives. Effectivement, aujourd'hui, il y a deux menaces qui pèsent sur les forêts, c'est l'agriculture surbrûlée et la carbonisation. Donc nous avons déjà lancé l'appel à proposition sur les alternatives au charbon de bois et sur l'agriculture surbrûlée, nous sommes en discussion. Et vraiment, dans ce projet, vous devez comprendre que les solutions ne proviendront pas de nous, mais des Congolais eux-mêmes. Et ça signifie que des ONG, des entreprises privées et même des personnes, parce qu'il y a tout un aspect de sensibilisation. Parce que des fois, les populations, c'est parce qu'ils ne veulent pas utiliser les alternatives, c'est simplement qu'ils ne sont pas au courant des alternatives. Donc la partie sensibilisation aussi est très importante, et ce que nous attendons en fait de la population, c'est les propositions concrètes pour faire face à ces menaces-là.
Bien, vous avez dit tout à l'heure qu'on peut remplacer l'agriculture surbrûlée par d'autres méthodes, notamment l'agroforesterie. Et comment s'est fait l'agroforesterie?
En fait, l'agroforesterie, c'est quand vous mélangez en fait l'agriculture que vous êtes en train de faire, par exemple vous faites du riz, mais au lieu de complètement couper la forêt, c'est laisser des espaces en fait aux arbres. Par exemple, au lieu de faire uniquement le riz, vous pouvez aussi le mélanger justement, l'agriculture sur le riz par exemple, mais avec des arbres fruitiers. Vous voyez? Donc c'est un peu ce mélange qu'il faut faire. Et là en fait, ça donne aussi plus de revenus au paysan lui-même, parce que au lieu de faire juste de la monoculture, il diversifie un peu et permet aussi aux arbres qui sont sur place de ne pas les couper. Donc c'est un peu ce mélange là en fait de l'agroforesterie. C'est faire à la fois son champ, mais tout en faisant aussi faire grandir les arbres, notamment les arbres fruitiers, et là, pour avoir des revenus.
Et puis on peut créer une forêt artificielle, hein, comme le cas des Mampou. Il y a eu des projets comme ça ici où vous avez les acacias, on a planté les acacias à côté, on fait l'agriculture.
Oui, donc ça c'est l'un des meilleurs exemples justement. Au lieu de menacer la forêt, ben vous pouvez justement planter une forêt, par exemple d'acacia, et dans 5 ans la forêt est agrandie, elle est disponible et vous pouvez couper justement cette forêt artificielle pour faire le charbon de bois. Et là, ça me permet de minimiser les impacts ou de ne pas aller dans la forêt primaire. Donc c'est là aussi l'un des moyens pour faire face. Il y a vraiment beaucoup de moyens pour faire face justement à l'agriculture surbrûlée et même à la carbonisation. Il existe beaucoup de techniques. Pour vous dire, nous avons reçu, quand nous avons lancé l'appel à propositions sur les alternatives au charbon de bois, nous avons reçu 245 propositions des entreprises, des ONG et des coopératives.
Avec des foyers améliorés, certains disent qu'il faut plus produire des foyers améliorés et c'est ça qui va réduire la carbonisation.
Oui, nous avons eu des propositions sur les foyers améliorés, nous avons eu des propositions sur le gaz, le GPL, donc nous avons vraiment eu beaucoup et beaucoup de propositions vraiment innovatives nous allons sélectionner les meilleures propositions et essayer de les soutenir. Mais on va pas être les seuls, nous invitons aussi les autres partenaires à aller dans cette voie, notamment, il n'y a pas seulement l'USAID, il y a aussi CAFI qui va dans cette voie et le PNUD aussi qui va dans cette voie pour essayer de soutenir en fait le gouvernement congolais qui est aussi dans cette voie pour lutter contre les menaces qui pèsent sur les forêts.
Et puis il y a Glody qui est revenu sur la pollution, hein. Il a parlé de la pollution du sol, de l'eau, de l'air, est-ce que vous intervenez également sur ces trois dimensions là?
Nous intervenons sur la pollution quand elle fait face aux menaces qui pèsent sur la biodiversité et les forêts. Par exemple, sur la pollution de l'air, nous n'intervenons pas. Il faut être clair là-dessus. Mais sur la pollution de l'eau, oui, nous intervenons parce qu'il y a des ressources halieutiques qui sont menacées. Donc ça dépend vraiment si cette pollution du sol est une menace pour la biodiversité et les forêts. Mais voilà, en tout cas sur l'eau, nous intervenons parce qu'il y a les ressources halieutiques qui sont menacées.
Mais en quoi est-ce que les bouteilles d'eau en plastique qui se retrouvent au niveau du fleuve menacent les poissons et les autres ressources halieutiques?
Parce que quand vous jetez votre plastique, le plastique prend des milliers d'années pour se décomposer dans la nature. Et elle se décompose des fois en microfibres, vraiment, que vous ne pouvez pas voir, mais qui se retrouvent, et des fois, elles sont tellement minimes qu'elles sont bouffées par les poissons. Donc ça se retrouve dans l'organisme du poisson, et ce poisson, nous le pêchons, nous le mangeons, et ça peut éventuellement nous causer des maladies. Donc c'est en fait une façon de nous protéger nous-mêmes. Aujourd'hui, le plastique que l'on rejette sur le fleuve, ce sont les maladies que nous sommes en train de préparer pour nos enfants, nos petits-enfants et nos arrière-petits-enfants. Voilà pourquoi il est très important aujourd'hui, et j'apprécie beaucoup ce qu'est en train de faire justement la vice-première ministre, essayer de soutenir les compagnies qui font du recyclage du plastique, parce que plus ils ont la capacité de recycler le plastique, moins on a de menaces qui pèsent sur les ressources halieutiques. Ça signifie pour la santé de nos enfants, de nos petits-enfants et de nos arrière-petits-enfants. Parce que du plastique, dans le poisson, c'est un poisson que nous allons manger, nous allons éventuellement tomber malade.
Mmh. Et il y a déjà beaucoup d'initiatives de recyclage des plastiques.
Oui, aujourd'hui, il y a beaucoup de sociétés qui, justement, font ce travail sur le recyclage du plastique. Mais aujourd'hui, ces sociétés doivent être soutenues. Et voilà pourquoi, avec l'administration, notamment l'ACTED, donc l'agence de la présidente, la vice-primature, et notamment l'agence congolaise de l'environnement, nous sommes en discussion pour mettre en place, justement, ces mesures incitatives fiscales pour aider les sociétés dans les activités contribuées à améliorer les environnements, pour qu'ils puissent avoir accès à toutes ces mesures économiques, fiscales, pour qu'ils puissent mieux travailler et peut-être augmenter leurs activités et permettre de mieux protéger notre environnement.
Alors si on récupère ces plastiques, qu'est-ce qu'on peut en faire d'autre? On peut les recycler et produire quoi d'autre?
Produire d'autres bouteilles. Justement, c'est ça l'idée géniale, en fait. C'est de reprendre les bouteilles que vous rejetez, les traiter et les remettre dans le...
produire d'autres bouteilles.
D'autres bouteilles. Comme ça, la bouteille reste.
Mais il semble qu'on peut produire aussi des pavés.
On peut produire, vous voyez tout ce qu'on produit comme plastique, on peut produire des chaises en plastique, il y a beaucoup de choses que l'on peut faire. L'objectif, c'est d'avoir un circuit qui permet que le plastique ne puisse pas être rejeté et qu'elle puisse toujours être utilisée, réutilisée et réutilisée à l'infini. Voilà pourquoi il faut aider ces sociétés. Et nous, en fait, nous pensons qu'avec cette disposition de la loi sur l'environnement qui permet d'aider les sociétés dans les activités améliorant l'environnement, il faut mettre en place ces mesures-là, c'est prévu dans la loi, et aider ces sociétés-là. En tout cas, pour l'activité au soutien aux forêts de l'USAID, c'est de faire en sorte que ce plastique ne se retrouve pas notamment sur le fleuve.
Bien, nous parlons de la diversité. Comment assurer une bonne gestion de la diversité avec Alain Ngunda, spécialiste chargé des institutions et gouvernance à la structure dénommée Activité des soutiens des forêts et biodiversité de l'USAID. Des questions et préoccupations, appelées au 081 890 63 94.
L'actualité en profondeur sur Radio Capice et dans Grande Interview. Des questions politiques, économiques, sécuritaires et tout ce qui touche au vécu des Congolais sont abordées avec les acteurs qui font l'actualité et les spécialistes. L'actualité évolue et nous aussi. Toute l'équipe vous donne rendez-vous tous les samedis à 10h05, dimanche à 11h05 et mardi 14h15.
Bien, ravi de vous retrouver, fidèles auditeurs, à vous qui venez de nous rejoindre sur la fréquence de la paix Radio Capi, et merci à tous ceux qui nous écoutent sur Internet, sur www.radiocapi.net. Nous parlons de la gestion, comment mettre en place une bonne gestion de la biodiversité en République démocratique du Congo. Nous recevons Alain Ngunda, spécialiste chargé des institutions et gouvernance, AFAPS, activité des soutiens des forêts et biodiversité de l'USAID. Alors, dites-nous Alain, comment exactement bien gérer la biodiversité, mettre en place une bonne gestion de la biodiversité?
Ok.
Les préalables.
Oui. Les préalables, la première des choses, c'est la connaissance. Vous ne pouvez pas protéger justement cette biodiversité si les personnes n'ont pas connaissance de la biodiversité. Aujourd'hui, quand on parle à un élève ou à un étudiant congolais, cite-moi les 10 espèces intégralement protégées en RDC. L'étudiant ne le sait pas. Cet étudiant, cet élève, c'est l'adulte de quelques années. Et cette connaissance de base lui permet déjà d'identifier, de savoir que ça, on n'a pas le droit d'y toucher parce que c'est une espèce en voie d'extinction. La première des choses, c'est la connaissance. et la connaissance non seulement dans l'identification, mais dans l'importance aujourd'hui aussi de ces espèces-là. Quand je vous ai parlé au début que il faut que les Congolais et que même l'espèce humaine comprennent que la biodiversité, c'est 60% des médicaments que nous existons, qui existent sur Terre. Donc, les composés chimiques proviennent de la faune et de la flore. Donc, il est important pour même la survie de l'espèce humaine de protéger cette biodiversité. Ça, c'est la partie connaissance. Et maintenant, il y a la partie gestion. Mmh. Aujourd'hui, on va pas interdire aux gens de chasser, parce que la chasse est une activité, mais elle doit se faire dans les règles. Mais aujourd'hui, par exemple, pour obtenir un permis de chasse, les gens ne savent pas comment obtenir un permis de chasse. Le modèle du permis de chasse n'existe pas. Donc, il y a toute cette partie-là institutionnelle qui doit être aussi mise en place. Parce qu'aujourd'hui, si vous, aujourd'hui, vous êtes journaliste, vous retrouvez, Bonganga, et que vous avez envie de chasser, mais en toute légalité, ben, vous n'avez pas les moyens de chasser en toute légalité parce que le modèle de permis n'existe pas. Et parfois même l'administration n'a pas été formée, l'administration locale n'a pas été formée pour accueillir justement ce type de demande-là. Là, c'est sur le plan institutionnel et nous essayons aussi d'aider l'administration à mieux justement gérer justement cette demande parce que les gens sont en train de chasser, mais ils doivent le faire de manière durable. Et quand on parle de chasser de manière durable, ça signifie aussi faire des inventaires parce que quand vous voulez chasser, par exemple, un type d'animal, l'animal n'est pas protégé. Mais on se rend compte via les inventaires que la quantité est en train de diminuer. Ça signifie qu'on doit protéger cet animal, sinon il va disparaître.
Bien sûr.
Il y a aussi des périodes où on a le droit de chasser, parce que c'est la période de reproduction.
Oui.
Ces périodes de chasse doivent être instituées notamment par les gouverneurs de province, qui n'instituent pas ces périodes de chasse. Et les gens chassent n'importe quand.
N'importe comment. Et les braconnages aussi continuent.
Oui, le braconnage continue. C'est les gens chassent n'importe comment.
Au niveau des parcs, avec l'insécurité, les braconniers en profitent.
Oui, d'ailleurs, la criminalité faunique est l'une des sources de financement des groupes armés. Donc, et nous essayons justement d'aider l'ICCN par rapport à ça, et notamment à bien gérer justement la gestion des stocks, et surtout aussi de mettre en place une stratégie nationale sur la criminalité faunique. Parce qu'aujourd'hui, dans la criminalité faunique, il y a beaucoup de services qui interviennent. Il y a la police, il y a l'armée, il y a Interpol, il y a l'ICCN, il y a beaucoup de services qui interviennent, mais il n'y a pas nécessairement de coordination entre ces services. Voilà pourquoi nous sommes en train de travailler avec notamment le ministère de l'Environnement, l'ICCN, pour essayer d'établir une stratégie nationale sur la criminalité faunique afin de permettre une cohérence dans les activités de tous ces acteurs-là institutionnels qui luttent contre la criminalité faunique.
Bien, on va accueillir un auditeur de Bounia, il s'appelle Héritier. Bonjour.
Bonjour aujourd'hui.
Bienvenue Héritier, qu'est-ce que vous avez à nous dire ?
D'abord, je voudrais vous informer que depuis 9h, nous n'avons pas... La radio a s'est coupée au niveau de Bounia, donc...
Oh là là.
On ne sait pas le problème, c'était quoi, non.
Voilà. Et comment vous nous suivez? Comment vous faites pour nous suivre?
Là, on vient de rétablir la situation maintenant, alors là, on vous capte normalement.
5 sur 5, d'accord. Voilà. Allez-y, qu'est-ce que vous avez à nous dire par rapport à l'environnement, la biodiversité?
La biodiversité, mais nous avons le ministère de l'Environnement, monsieur, qui devra régulariser la situation, mais on constate que ça ne va pas dans le pays. En Ituri, nous-mêmes, la population, nous avons besoin de faire l'agriculture. De la même manière, nous avons besoin de respirer. Alors, on n'arrive pas à comprendre ce qui doit primer. Ok, alors la question que je voudrais poser à mes célébrités, qu'est-ce qui doit être fait par la population et que la part de l'État pour qu'il y ait une bonne collaboration? Parce que le seul État qui est censé nourrir la population, et c'est le même État qui est censé protéger l'environnement. Alors, dans ce menu là, qu'est-ce qui doit être fait concrètement pour que tout ce que je viens d'évoquer là soit protégé, que les droits de chacun soient respectés? C'est D'accord. ça que j'avais à dire, monsieur Jody.
Bien, merci, héritier. L'État est censé fournir la nourriture à la population et doit en même temps aussi protéger les forêts, etc. Alors, comment tout cela va se faire? Monsieur Alain Ngunda, qu'est-ce que vous pouvez lui dire?
Oui, ce que vous avez dit est très important parce que les populations doivent manger, ils font l'agriculture, ils ont leur mode de production, c'est l'agriculture sur brûlis. La responsabilité de l'État aujourd'hui, c'est de proposer des nouvelles modes de production agricole et surtout d'expliquer aux populations pourquoi il doit avoir un nouvel mode de production agricole. Parce que quand vous faites l'agriculture sur brûlis, vous le faites une fois, deux fois, trois fois, après l'espace devient productif et vous devez aller encore plus loin. Donc ça signifie que expliquer à la population que pour vos petits-enfants puissent avoir accès à une terre un peu plus proche du village, il faudrait que vous adoptiez un nouveau mode de production. Et c'est là, en fait, la responsabilité de l'État. On ne peut pas juste dire aux populations, ne faites pas l'agriculture sur brûlis. Il faut leur proposer d'autres modes de production. Et surtout leur expliquer pourquoi ce nouvel mode de production est important pour les générations futures. Donc, ça signifie leurs petits-enfants. Et aussi, ça, c'est la partie agriculture sur brûlis, mais il y a la partie carbonisation. Parce que aujourd'hui, nous utilisons le charbon de bois parce que nous n'avons pas accès à des énergies alternatives. Aujourd'hui, les énergies alternatives, c'est quoi? C'est l'électricité. C'est notamment le foyer amélioré pour utiliser moins de charbon de bois. C'est le GPL. Mais aujourd'hui,
c'est quoi le GPL?
C'est le gaz de pétrole liquéfié.
Ok.
Ouais, donc, c'est qu'on utilise ici les bonbonnes qu'on utilise ici à Kinshasa pour faire de la cuisson. Mais tous ces alternatives sont parfois un peu coûteux par rapport au niveau de vie de la population. Alors, qu'est-ce qu'on doit mettre en place avec les entreprises pour que ces alternatives puissent être accessibles au plus grand nombre, ce qui permettra aux populations d'avoir une alternative au charbon de bois? Parce que si vous leur proposez pas des alternatives,
ils vont continuer à faire ce qu'ils ont l'habitude de faire.
Voilà. Et quand on vous dit que le GPL pour remplir votre bonbonne de 6 kilos, on vous dit que ça peut être 10 dollars, mais la population congolaise, 73% de la population congolaise vit avec moins de 1 dollar, moins de 2 dollars par jour. Donc il faut trouver des mécanismes pour rendre tous ces alternatives là abordable. Et c'est là le travail du ministère de l'Environnement, donc du gouvernement. Et bien sûr, nous sommes là pour soutenir aussi sur le plan institutionnel, parce qu'aujourd'hui, il existe sur le plan légal les moyens pour aider toutes ces entreprises qui nous offrent des alternatives au charbon de bois de diminuer justement le coût de leurs outils ou de leurs substances.
Bien, donc nous retenons que pour assurer une bonne gestion de la biodiversité, tout dépend d'abord de l'État. C'est l'État qui doit bien organiser les choses.
Ah oui, c'est l'État. Parce que, je vous donne un exemple. Moi, je suis en train de vendre le gaz, le GPL. C'est une alternative au charbon de bois. Je suis en train de faire, par exemple, j'invente. Parce qu'il y a des Congolais aujourd'hui qui inventent même la cuisson avec le soleil, le solaire. Il invente
L'énergie solaire.
Avec l'énergie. Il invente une méthode. Il ouvre une entreprise pour vendre son réchaud solaire. Mais son réchaud solaire coûte 20 dollars. Parce que les pièces doivent venir de l'étranger.
Là, c'est un problème.
Voilà, parce que les pièces doivent venir de l'étranger.
Les utilisateurs n'ont pas ces 20 dollars.
Mais les pièces qu'ils utilisent proviennent de l'étranger. Comment on peut aider cette entreprise pour que le prix puisse diminuer? C'est notamment faire en sorte que, par exemple, les pièces qui proviennent de l'étranger puissent être exonérées de douane. Comme ça, lui, les charges de production de son outil coûteraient peut-être un petit peu moins. Voilà ce que l'État doit faire. Parce que l'État, c'est pas elle qui va faire les foyers améliorés, le GPL. Elle va aider les entreprises qui le font afin que ça puisse être accessible aux populations. Et c'est là la responsabilité de l'État. Et nous essayons de soutenir l'État et d'appuyer l'État à aller dans ce sens.
Bien, merci beaucoup, monsieur Alain Ngunda. Je rappelle que vous êtes spécialiste chargé des institutions et gouvernance à FABS, activité de soutien des forêts et biodiversité, une structure de l'USAID. Alors, on va terminer cet entretien. Est-ce que vous avez un dernier mot ou autre chose à ajouter?
Oui, c'est juste un rappel. C'est juste un rappel qu'il faut protéger la biodiversité parce que c'est en fait se protéger nous-mêmes en tant qu'espèce humaine. Et la première fois que j'ai compris que la plupart des médicaments, des composés chimiques, des médicaments que nous utilisons pour nous soigner proviennent de la biodiversité, c'est là vraiment que je me suis rendu compte qu'il s'agit de notre survie. Et ne pas protéger la biodiversité, c'est comme ne pas protéger votre pharmacie. Donc c'est suicidaire de le faire. Donc, j'invite tout le monde à protéger la biodiversité pour se protéger soi-même.
D'accord. Merci, monsieur Alain Ngunda, qui a eu un petit chat dans la gorge. Je pense que ça va aller.
Ça va aller.
Ok, merci, merci d'avoir répondu à notre invitation. Excellente journée et à la prochaine.
Merci de m'avoir invité.
Sultana.
Service.
Le magazine de la vie quotidienne. Okapi Service reçoit ce lundi 23 mai le ministre des Affaires foncières, Aimé Molendo-Sakombi. Au menu de cet échange, le projet de numérisation et de sécurisation des titres fonciers et immobiliers en République démocratique du Congo. Quelle est l'importance de ce projet de digitalisation des titres fonciers et comment se fera la mise en œuvre? Rendez-vous ce lundi 23 mai dans Okapi Service de 11h à 12h, heure de Kinshasa. Pour participer à cette émission, appelez au 081 890 63 94. Écrivez-nous à service@radiookapi.net. Postez vos questions et préoccupations sur la page Facebook d'Okapi Service.
Okapi Service avec Jody Daniel Cachaman.
Nakotala. Bye.